Bonjour, Eberhard Kienle, directeur de recherche Sciences Po, spécialiste en sociologie et en économie politique des pays du Moyen-Orient, est intervenu dans le cadre des conférences de l'Institut d'études avancées de Nantes sur le thème « La résilience de l'État défaillant ». Mais avant d'aborder ce thème, une question, doit-on dire proche ou Moyen-Orient ?
À un moment, il y avait un temps dans l'histoire où on distinguait entre le proche et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, depuis de longues années, on emploie les termes quasiment de manière interchangeable, donc je pense que pour la plupart de nos auditeurs, si l'on parle du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, ça revient à peu près à la même chose. On parle grosso modo, mais encore une fois c'est très flou parce qu'il y a beaucoup de définitions concurrentes et parce que en politique comme dans les sciences sociales, on n'est jamais tout à fait d'accord sur les termes, il y a toujours une certaine polysémie. Grosso modo, on parle du territoire entre, disons, le Liban, la Syrie, la côte est de la Méditerranée et le golfe Persique. Maintenant, il y a des gens qui ajoutent l'Égypte, il y a des gens qui ajoutent l'Afrique du Nord, qui ne distinguent pas entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Il y a d'autres qui ajoutent l'Iran, l'Afghanistan, parfois même le Pakistan. Donc tout ça, c'est très très flou. Alors pour moi, le Moyen-Orient, en effet, ça serait, et traditionnellement, parce que je suis un petit peu de, comment dire, de formation anglo-saxonne, pour moi, le Moyen-Orient, c'était tout ce qui est situé entre, mettons, le Maroc et le golfe Persique, y compris l'Iran, y compris l'Égypte. Mais voilà, vous pouvez être d'accord avec moi ou non, le mieux est toujours, lorsque quelqu'un emploie le terme, de bien lui poser la question comment il le définit et comment il le délimite. Pour ce qui est, disons, de l'emploi des termes, c'est vrai, il y avait peut-être une prédilection britannique, surtout pour le Moyen-Orient, et française pour le Proche-Orient. Mais bon, ça s'est complètement estompé. Ce qui est important, c'est de retenir qu'on ne parle pas d'une région entre guillemets naturelle, c'est une partie du monde qui a été artificiellement délimitée par les puissances coloniales ou impérialistes. Il n'y a aucune cohérence interne à cette partie du monde. Elle est artificiellement délimitée vers l'extérieur et il n'y a aucune cohérence interne. Donc si l'on nous dit que c'est d'une région qui est naturelle, qui serait marquée ou bien par la langue arabe ou par la religion islamique, c'est entièrement faux. Il y a des musulmans ailleurs, il y a des gens dans cette partie du monde qui ne parlent pas l'arabe. Voilà, c'est une délimitation, une définition de convenance qui convenait surtout à ceux qui l'avaient inventée dans le temps, mais il ne faut surtout pas l'essentialiser ou penser que ça correspond à quelque chose autre qu'un caprice administratif ou politique. Comme dans toutes les parties du monde, et j'hésite à les désigner comme des régions, parce que déjà le terme de région, il implique une certaine peut-être cohérence interne et différenciation par rapport à l'extérieur. Toutes les parties du monde sont, disons, artificiellement délimitées, y compris d'ailleurs l'Europe. Hein. Qu'est-ce que c'est l'Europe ? Elle a changé de frontière au cours de l'histoire, hein, dans la perception des Européens même. Toutes ces parties du monde qu'on distingue, parce qu'il faut bien peut-être distinguer un petit peu pour mettre un petit peu d'ordre mental dans le monde, ou parce qu'on peut difficilement rédiger un guide touristique qui couvre le monde entier, il sera trop épais, on ne pourra plus voyager avec, donc il faut bien peut-être subdiviser le monde, mais c'est la seule raison, c'est une raison pragmatique. Et évidemment, à l'intérieur de toutes ces régions du monde, il y a la vie qui continue, il y a, disons, des alliances politiques qui se forgent, qui se forment, et évidemment, les États ne restent pas toujours les mêmes. Tout ça, c'est soumis à l'histoire, et au Proche-Orient, c'est pas différent qu'en Europe, ou qu'en Afrique, ou qu'en Amérique latine. Dans ce qu'on appelle communément le Moyen-Orient, il y a plusieurs États. Souvent, on confond les États avec des nations. Alors un État ne veut pas dire une nation. Encore une fois, évidemment, faut mettre en garde parce qu'il y a des définitions de l'État qui sont différentes. Pas tout le monde s'entend sur ce que c'est un État, pas tout le monde ne s'entend sur ce que c'est une nation. Mais, disons, on peut distinguer, moi en tout cas, et je suis une approche qui distingue l'État de la nation. Pour moi, l'État est une construction juridique avec des frontières, avec un gouvernement central qui essaye de monopoliser, comme on disait dans le jargon des sociologues, des politistes, qui essaye de monopoliser les moyens de coercition physique, les moyens de violence, c'est-à-dire qui s'imposent par la police, par exemple, sur l'ensemble du territoire, et qui, en même temps, essaye de mener, de mettre en œuvre des politiques publiques. Voilà, c'est ça l'État. Alors, il y a beaucoup d'États dans le monde, y compris au Moyen-Orient, qui ne correspondent pas à des nations, dans le sens que la nation, c'est plutôt une communauté de loyauté ou de solidarité de tous ceux qui vivent dans les frontières d'un État. Alors, parfois, État et nation correspondent, ça serait l'État-nation. Grosso modo, ça serait le cas peut-être de la France, de l'Italie, de plusieurs États européens, où les frontières de l'État, donc de l'État comme construction juridique, correspondent à une communauté de ceux qui vivent, qui se sentent appartenir à la même, au même groupe, à la même communauté de loyauté, qui est la nation. Alors il y a beaucoup d'États, évidemment, dans le monde, y compris dans le Proche-Orient, ou dans le Moyen-Orient, comme on veut, où ce n'est pas le cas. Où on a des États, mais on a, entre guillemets, des groupes ou des communautés de loyauté qui sont différents, qui sont plus petits, qui vivent à l'intérieur de l'État, ou qui parfois chevauchent deux ou trois États. Prenons les Kurdes. Alors évidemment, il faut aussi savoir que, ou dire qu'il y a beaucoup de Kurdes, enfin il y a des différences linguistiques entre les Kurdes, pas tous les Kurdes ne parlent le même kurde. Les Kurdes ont historiquement vécu de manière séparée les uns des autres, c'est-à-dire ceux en Iran, ceux en Irak, ceux en Syrie ou en Turquie n'ont pas nécessairement autant de choses en commun, parce qu'ils étaient parfois isolés les uns des autres. Et voilà, comme je viens de dire, le kurde qu'il parle n'est pas tout à fait le même. Mais on voit très bien qu'il y a une certaine solidarité kurde qui relie les Kurdes qui vivent dans les différents États. N'empêche que les Kurdes n'ont pas d'État. Et souvent, évidemment, le fait d'être kurde ou de s'identifier avec une communauté kurde est plus important pour ceux qui s'identifient avec cette communauté kurde que l'identification ou la loyauté par rapport à l'État. Donc voilà, là on a un exemple où les frontières de l'État ne correspondent pas nécessairement à la frontière de ce que les acteurs eux-mêmes vivent comme solidarité ou comme communauté.
Pour en revenir à votre conférence, on parle de résilience et d'état défaillant. C'est quoi ? C'est un titre qui procède de l'anthropomorphisme, non ?
Non, pas nécessairement. Non.
Alors, expliquez-moi le titre, alors.
C'est que...
C'est pas propre aux hommes, la
résilience. Peut-être, je sais pas. Il faudrait qu'on fasse intervenir un psychanalyste, peut-être. Mais bon, enfin, je n'y ai pas pensé, en tout cas. Alors, dans la presse, mais aussi dans différentes disciplines des sciences sociales, on parle souvent d'états défaillants. Alors, par état défaillant, on désigne des états qui, justement, n'ont pas actuellement, ou n'ont jamais eu peut-être, ce monopole, ce célèbre monopole des forces de coercition, c'est-à-dire des États qui ne sont pas seuls à avoir des forces armées ou des forces de police dans le territoire qu'ils semblent dominer, contrôler, gouverner. Alors, pour être plus pratique, nous avons là l'exemple de la Syrie. La Syrie est toujours considérée comme un État, et la plupart des acteurs qui participent à cette guerre ou guerre civile en Syrie sont grosso modo, officiellement en tout cas, ou en public d'accord que la Syrie, en tant qu'État, devrait continuer à exister. Donc, ils ne disent pas qu'ils aimeraient faire sécession, qu'ils aimeraient recréer ou créer un autre État. Donc, au fait, la Syrie reste, disons d'une certaine manière, le point de référence de la plupart des acteurs de l'opposition comme du régime. Mais la Syrie, comme on voit actuellement, n'est pas entièrement contrôlée par les forces du régime. Donc il y a des forces armées dans différentes parties, y compris aussi, évidemment, là aujourd'hui, on y pense surtout, des forces kurdes dans le nord, certains qui sont actuellement en conflit avec la Turquie, d'autres ne le sont pas, plus à l'ouest. Mais il y a aussi la région d'Idlib, où le gouvernement syrien ne contrôle actuellement strictement rien, et où on a des forces armées qui sont là et qui contrôlent ce territoire. Donc l'État syrien, prenons aussi évidemment l'exemple de l'État islamique, qui était fortement implanté en Syrie, aujourd'hui beaucoup moins, mais qui contrôlait une bonne partie du territoire syrien. Donc en Syrie, on est en présence d'un État qui officiellement existe, mais qui ne jouit pas de ce monopole de coercition. C'est-à-dire l'État syrien ne peut pas, s'il veut, facilement imposer une politique ou quelque chose à Idlib, ou à Deraa actuellement, ou à Afrin dans le nord. Donc là, on est dans un État qui est souvent, enfin qui remplit certains critères d'un État dit défaillant. Parce que dans la littérature, dans la presse, si l'on parle d'un État défaillant, c'est souvent un État qui, justement, est fragmenté, où le gouvernement central n'arrive plus à contrôler les choses. Ça, c'est une des possibles définitions d'un État défaillant. Maintenant, il y en a d'autres, hein. On peut revenir là-dessus si vous voulez, il y en a d'autres, mais souvent, quand au Moyen-Orient ou en Asie, on parle d'un État défaillant, c'est un État qui est clivé, où le gouvernement ne contrôle pas tout, où il y a des forces, disons, politiques et armées concurrentes qui le remplacent par-ci, par-là. Alors si je parle de résilience, l'idée, et ce qui m'a frappé, c'est qu'une bonne partie de ces États dits défaillants, prenons la Syrie depuis 2011, prenons l'Irak depuis, on peut dire 2003, depuis l'intervention américaine ou de la soi-disant coalition. Regardons aussi l'Afghanistan un peu plus loin, depuis au fait le départ des Soviétiques en 89, ou la Somalie sont des États, et l'Afghanistan et la Somalie sont des États classiques de l'État défaillant. Donc le gouvernement central ne contrôle qu'une partie du territoire. Le gouvernement central n'est pas vraiment en mesure de mettre en œuvre des politiques ou bien d'imposition ou des politiques sociales et économiques parce qu'ils ne contrôlent justement pas le territoire, mais que ces États sont toujours là. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, on dit d'un côté que ces États sont défaillants. Alors, on pourrait s'imaginer qu'ils se scindent en deux, en trois, en quatre, qu'après quelques temps, l'Irak n'est plus l'Irak, mais voilà, qu'il tombe en miettes et que peut-être d'autres États renaissent sur le territoire de l'Irak, ce qui n'a pas été le cas. Donc il y a quelque chose qui, visiblement, les tient encore ensemble. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est des dynamiques qui, d'un côté, est une dynamique de désintégration. Là, on est dans le domaine de l'État dit défaillant. Et j'insiste sur le « dit » parce qu'il y a d'autres manières de voir ces États, des manières peut-être plus appropriées seulement, c'est ça le langage commun actuellement. Et il y a aussi des dynamiques qui les tiennent encore. Toute l'idée est évidemment de réfléchir à l'avenir. Est-ce que ces États vont vraiment disparaître en tant que tels? Est-ce que ces États vont donner naissance peut-être à des États plus petits ou à d'autres États? Ou est-ce que ça va rester comme ça et on restera dans une sorte d'entre-deux où les forces, disons, centrifuges sont certainement très importantes, mais où il y a toujours, pour ainsi dire, des forces centripètes qui tiennent l'ensemble, ce qui, évidemment, crée des régimes, enfin, crée des entités territoriales et des régimes politiques assez complexes.
Et toute la question, c'est pourquoi ça tient?
Ben voilà, toute la question est
pourquoi ça tient. Et vous avez des réponses?
Alors bon, il y a un certain nombre de réponses. Alors, et encore une fois, il faut dire que ça tient mal, mais parfois ça tient. L'idée n'est pas du tout de dire que les forces qui unissent ou qui rassemblent encore sont des forces plus importantes, plus conséquentes que les forces qui divisent. C'est pas du tout ça ce que je veux dire. N'empêche que, même si les forces qui divisent ou qui clivent sont plus fortes, il reste toujours quelque chose qui fait tenir ces entités. Alors, un des facteurs certainement très importants, c'est la reconnaissance internationale. Alors, tant qu'il y a reconnaissance internationale pour une entité politique comme la Syrie, comme l'Irak, comme le Liban, comme d'autres, ben voilà, elle reste quand même reconnue par, disons, ses pairs, par les autres États, ce qui est déjà pas mal. Et avec la reconnaissance internationale, viennent souvent de ressources matérielles, symboliques, qui stabilisent cette entité. Alors, reconnaissance internationale, ça veut dire que il y a des échanges, bon, on fait partie des Nations Unies, on a un siège, voilà, justement, donc, à l'Assemblée générale. On est représenté dans les autres organismes internationaux. Donc voilà, on peut évidemment faire valoriser le gouvernement central qui représente l'État reconnu internationalement, il peut jouer sur ces ressources symboliques qui sont la reconnaissance, la représentation à l'étranger. On a des ambassades, on a des consulats. Le citoyen qui se rend à l'étranger, s'il a besoin de quelque chose, ben, il doit d'abord parler pour être rapatrié peut-être, ou pour obtenir quoi que ce soit, il doit d'abord parler à la représentation diplomatique du pays en question. Donc tout ça, ça donne des ressources pour le gouvernement en place pour s'imposer. Plus important peut-être, c'est en dehors de ces ressources symboliques, ce sont les ressources matérielles. Parce qu'un gouvernement officiellement reconnu, souvent il reçoit une aide d'autres pays, une aide militaire, une aide au développement, une aide technique. Et tout ça, évidemment, géré par le gouvernement qui représente l'État officiellement reconnu, ça permet évidemment de se créer une légitimité, ça permet aussi d'utiliser ses moyens parfois pour la répression donc des forces armées et politiques concurrentes sur le territoire, ça permet aussi évidemment de coopter des acteurs parce qu'on les associe un petit peu à la largesse qui vient de l'étranger, et donc ça crée évidemment une certaine stabilité en faveur du gouvernement en place. Ce n'est pas le seul facteur, il y en a d'autres. On voit souvent que les États, entre guillemets, défaillants, sont des États qui sont souvent contestés donc, à l'intérieur, parce que s'il n'y avait pas de contestation à l'intérieur, il n'y aurait pas l'émergence de ces groupes armés. Ça veut bien dire quelque chose, hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui essayent de représenter ceux qui se sentent marginalisés dans l'État, parfois, pas toujours, mais en tout cas, il y a une contestation de l'autorité de l'État central ou du gouvernement central. On voit que ces États, bien qu'ils soient contestés de l'intérieur, et que leur légitimité aussi soit contestée, que ces États souvent arrivent quand même à, comment dire, avoir un impact sur les échanges entre les personnes qui vivent dans leurs frontières, et que ces États arrivent aussi à former et façonner, disons, l'imaginaire des gens. Alors, dans les États comme la Syrie, je viens d'en parler tout à l'heure, et qui est très contesté, où il y a des groupes armés différents et le gouvernement central qui veut représenter les Syriens ne contrôle pas tout le territoire, n'empêche qu'on a beaucoup d'acteurs syriens, dans l'opposition comme dans le régime, qui, on l'a vu enfin, depuis 2011, à l'occasion de nombreuses conférences de l'opposition, ce sont des gens qui finalement s'imaginent tout de même ont tous des projets pour la même Syrie. Ils ne parlent pas de la même Syrie. Le régime actuel et l'opposition, ou les oppositions, ne sont pas d'accord comment cette Syrie devrait, à quoi elle devrait ressembler d'ici 2, 3, 4 ans. Enfin, déjà la question avec Assad ou contre Assad. Donc on a des projets politiques, ou parfois aussi économiques et sociaux, différents. Mais on est tous quand même d'accord que, à peu près, ces projets s'appliquent à cette même Syrie et à cette même population. Donc, ces États ont, pour ainsi dire, depuis leur création relativement tardive, parce que là, on parle d'États qui sont relativement jeunes, hein, qui sont tous issus de la disparition de l'Empire ottoman au début du XXe siècle, enfin, mettons, fin de la Première Guerre mondiale, 1918, que ces États relativement jeunes, enfin, surtout, on les compare à la France, par exemple, hein, qui est un vieil État consolidé, que ce sont des États qui sont donc jeunes, mais qui ont quand même, d'une manière ou d'une autre, réussi, métaphoriquement, on pourrait dire, à prendre du poids. Ils se sont donc imposés sur les activités des citoyens et aussi sur leur imaginaire.
Mais alors, l'origine de la défaillance ?
Ce qu'on appelle défaillance d'un État peut avoir beaucoup de causes différentes et il y a des constellations tout à fait différentes. Quand on parle de défaillance d'un État, en général, on veut dire que cet État n'est pas à même de remplir les fonctions que communément on attribue à un État. Donc, garantir la sécurité de tout le monde. De là l'importance du monopole des forces de coercition, c'est-à-dire l'État qui ne jouit pas de ce monopole ne peut pas s'imposer, ne peut pas imposer la loi, par exemple. Donc, on parle d'États qui ne sont pas en mesure, ou bien, disons, d'établir ou de rétablir l'ordre. Ça peut être évidemment un ordre acceptable ou inacceptable, un ordre démocratique ou un ordre non démocratique, hein, c'est-à-dire on parle uniquement d'ordre, sans nécessairement valoriser cet ordre. Donc l'État ne peut pas imposer cet ordre, et où il ne peut pas vraiment mener des politiques qui devraient profiter aux citoyens. Des politiques d'investissement, des politiques économiques, des politiques sociales, des politiques d'éducation, des politiques de santé, par exemple. Donc, il y a quelque chose qu'il ne sait pas faire, qu'il devrait faire. Et si l'État ne remplit pas ces fonctions-là, on l'appelle souvent défaillant. Alors, cette défaillance, elle peut avoir des causes très différentes.
Eberhard Kienle, directeur de recherche Sciences Po, est l'invité du magazine.
Alors, dans les États, on l'a déjà dit, du Proche-Orient ou en Afghanistan, en Somalie, en Afrique, souvent on lie cette défaillance au clivage interne. C'est-à-dire, on revient à cette question, on a un État avec des frontières, un territoire et une population, mais cette population, elle ne forme pas une communauté de loyauté ou de solidarité, c'est-à-dire on n'est pas tous d'accord, on est clivé, les uns se définissent, enfin, prenons la Syrie, hein, les uns se définissent... Non, prenons l'Irak, c'est encore mieux. Voilà, les uns se définissent comme kurdes d'abord et pas comme irakiens d'abord. Les autres se définissent peut-être comme sunnites ou comme chiites d'abord et pas comme irakiens d'abord. Et donc dans ce cas-là, évidemment, la solidarité, les communautés de solidarité ne correspondent pas à la population de l'État. Et ça peut évidemment créer des clivages très importants et ça peut évidemment se traduire par l'émergence de groupes armés qui luttent les uns contre les autres. Et donc on est dans la situation d'un État entre guillemets, défaillant. On peut s'imaginer d'autres constellations. On a parlé hier de l'Amérique latine, où la situation est différente. On a des États qui sont gangrénés par une criminalité organisée, qui n'arrivent pas à garantir la sécurité de leurs citoyens, parce que les groupes criminels sont tellement forts, avec parfois des blindés, avec des moyens paramilitaires, que l'État n'arrive plus. Ou même que ces groupes se sont infiltrés dans l'administration ou dans l'État lui-même. Donc voilà, là on peut aussi parler d'un État défaillant, et pour des raisons différentes. Il y a encore une définition de l'État défaillant, c'est l'État qui tout simplement n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses citoyens. Par exemple, il n'arrive pas à nourrir ou à créer les conditions que tout le monde soit nourri, il y a la famine, il y a des épidémies, et tout cela, voilà. Donc tout ça, c'est des définitions possibles. Il y a toute une variation. Ce qui est important, je pense, c'est dans tous ces débats, de passer de la notion de l'État défaillant à une autre notion. État défaillant, c'est une notion très problématique. Et je l'ai utilisé hier uniquement un petit peu comme, c'est un peu pour accrocher le public, et pour aussi expliquer qu'au fait, cette définition, ou plutôt cette notion, il faudrait peut-être l'abandonner au profit de quelque chose d'autre. État défaillant, ça veut dire, d'abord c'est une notion un peu péjorative, ce qui est problématique, c'est que quand on parle, et souvent dans les médias, mais aussi dans la littérature scientifique ou pseudo-scientifique, on oublie de définir bien ce qu'on appelle comme État, parce qu'en effet, il y a des définitions de l'État qui sont très différentes, et celle du monopole des forces de coercition n'est pour ainsi dire qu'une définition minimaliste, on peut en avoir d'autres. Donc il faut d'abord s'entendre sur la définition de l'État, et deuxièmement, il faut s'entendre sur la définition de la défaillance. Qu'est-ce qui est défaillant? À partir de quel moment l'État est-il défaillant? Est-ce qu'il est défaillant? Voilà un exemple. On se souvient tous de la guerre civile en Irlande du Nord, où en effet l'État britannique n'était plus capable à imposer l'ordre dans une de ses parties, dans une de ses provinces. Alors est-ce que le Royaume-Uni à l'époque était un défaillant? Parce que tout simplement il n'arrivait pas à imposer, disons, l'ordre sur une partie de son territoire? Je n'en suis pas sûr. Voilà, donc la défaillance, c'est une notion très vaste, très générale. Donc, sans définir ce qui est l'État précisément à chaque fois et sans définir à partir de quel moment un État est défaillant, cette notion d'État défaillant n'est pas très utile. Alors, évidemment, il y a tout un débat scientifique autour de cette notion et ce qui me paraît plus utile, voilà, parce que ça évite aussi toute, disons, dérive péjorative, c'est d'abord de penser qu'il y a des États qui ne se ressemblent pas trop. Il y a des États et des États. C'est un peu comme une grande arche de Noé. Il y a beaucoup d'animaux qui s'appellent États, Mais voilà, il y en a qui rampent par terre, il y en a d'autres qui volent dans l'air. Ce sont des homonymes. L'État français n'est pas identique à l'État afghan, l'État américain n'est pas identique à l'État russe, et ainsi de suite. On les appelle tous États parce que, à un moment, on avait décidé, dans l'histoire politique de l'humanité, on avait décidé, pour ainsi dire, de subdiviser le monde en États. On peut dire que c'était une solution de convenance. C'est ce qu'on appelle souvent le système westphalien. Donc on a dit, ben voilà, on vous organise tous en États. Ça ne veut pas dire que, à l'intérieur, ces États se ressemblent et fonctionnent de la même manière. Donc, je pense qu'il est plus utile de regarder ces États dits défaillants comme des États différents. Différents de ce que nous avons en tête quand nous parlons de l'État français, quand nous parlons peut-être de l'État allemand, et ainsi de suite, qui déjà ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'il vaut mieux de réfléchir en termes d'États qui ont des formes et des natures différentes. Et il y a des États qui remplissent un certain nombre de fonctions mieux que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que ces États ne sont peut-être pas des États.
Et là, ce que je suis en train d'entendre, finalement, c'est parce que nous les considérons comme défaillants qu'ils le sont, en fait.
On peut les appeler défaillants à condition d'établir clairement les critères de la défaillance ou de la performance. Et souvent, on ne fait pas. Il faut évidemment aussi voir ce que pensent les habitants de ces pays. C'est-à-dire, est-ce que pour eux, l'État est aussi défaillant que pour l'observateur extérieur ? Est-ce que pour un Syrien, pour un Irakien aujourd'hui, l'État irakien ou syrien est aussi défaillant que pour celui qu'il regarde de l'extérieur ? Bon, tout ça, évidemment, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais ce qui m'importe le plus, c'est de dire que il ne faut pas nécessairement penser que la seule manière d'organiser une population sur le plan politique est l'État tel que nous le connaissons. C'est-à-dire, il serait probablement illusoire de penser que la Syrie, l'Irak, l'Inde, aussi les États-Unis ressemblent un jour à la France. Ils ont certainement tous des traits communs ou des traits en commun. Mais les États ou les entités politiques qui existent dans le monde se sont formées, ont été formées dans des conditions historiques très très différentes. Voilà, la France est un vieil État. La Syrie, à la rigueur, on peut remonter jusqu'en 1920, mais il vaut mieux peut-être attendre jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour parler d'un État syrien. Déjà, ont été créés sous des conditions historiques très très différentes. Donc il est très très peu probable que ces États se ressemblent un jour, sauf de manière très, très minimale, hein, qu'en effet, ils sont tous reconnus sur le plan international, qu'ils ont tous un gouvernement, qu'ils ont tous encore un gouvernement voilà, qui ou bien contrôle le territoire ou non, qu'ils ont tous des représentations diplomatiques. Mais voilà, après, ça s'arrête peut-être. En dehors de ça, ce n'est pas nécessairement la même chose. Donc, on a deux possibilités. Ou bien, on dit, ce sont tous des États, mais ce sont des États qui sont différents. Ou bien, on nie l'appellation d'État à certains ou à certaines de ces entités. Mais voilà, donc, ou bien l'un ou l'autre. Hein. Maintenant, tant que ces États sont reconnus sur le plan international et entretiennent des relations diplomatiques les uns avec les autres, sont tous représentés aux Nations Unies, bah, il vaut peut-être mieux de reconnaître qu'ils sont tous des États et après de dire, bah, voilà, mais ce sont des États qui se distinguent quand même beaucoup les uns des autres, sans nécessairement les appeler défaillants. Alors maintenant, peut-être en conclusion, et si l'on accepte que ce sont des États qui fonctionnent de manière différente, qui sont différents, évidemment, on peut toujours dire que bah, sur certains plans, certains fonctionnent mieux que d'autres. Hein. Surtout si un État prétend, par exemple, au monopole des forces de coercition, ou si un État prétend à mettre en œuvre des politiques économiques, sociales et autres, bah, on peut très bien juger, mesurer à quel point il arrive. Et s'il n'y arrive pas, bah dans ce cas-là, même s'il est a priori différent, il peut toujours évidemment être défaillant.
Merci à Eberhard Kienle, directeur de recherche Sciences Po, pour sa libre participation à ce programme réalisé avec le concours de l'Institut d'études avancées de Nantes.